Marché action, marché obligataire et pivot de la Fed. Passons en revue tous les cas de figure possibles. Car chers amis, je vous le dis tout de suite, ne vous enfermez pas dans ce scénario simpliste qui consiste à croire que le pivot de la Fed, qui va avoir lieu le 18 septembre, va faire monter le marché action et le marché obligataire. Il y a un certain nombre de paramètres. Je vous ai tout rassemblé dans un tableau croisé. Il y a 7 cas de figure possibles avec des impacts différents croisés sur les actions et les obligations. C'est ce dont nous parlons dans cette nouvelle édition du Top Gun, avec comme d'habitude en seconde partie le tour d'horizon technique de vos indices boursiers et de vos obligations. Chers amis, je suis ravi de vous retrouver, nouvelle édition du Top Gun. Actions, obligations, pivot de la Fed. Alors, je vous en prie, cessez de croire, peut-être que ce n'est pas le cas d'ailleurs, que le pivot de la Fed va faire monter le marché à actions. C'est possible. Mais ce n'est pas acquis. Nous en avons parlé ici un certain nombre de fois sur cette antenne, dans cette émission. En cette semaine, première semaine de septembre, de vraie rentrée, semaine qui voit la mise à jour de toutes les statistiques américaines de l'emploi. Et vous l'avez compris, depuis Jackson Hole et la conférence de presse de Jerome Powell, vous le savez, désormais ce n'est plus l'inflation qui compte. Enfin, si, j'exagère. Mais en termes d'importance, les statistiques du marché de l'emploi ont pris le dessus. Cette semaine, vous avez l'enquête ADP, les inscriptions hebdomadaires au chômage, le rapport NFP, les créations d'emplois. Toutes les statistiques américaines de l'emploi tombent, notamment le rapport NFP ce vendredi 6 septembre. C'est la clé pour le pivot. Vous savez, le pivot, la Fed, c'est bon, on l'a le 18 septembre, alors, sauf fait exceptionnel. 18 septembre et petite probabilité 7 novembre, mais 18 septembre. Première chose, la raison du pivot. Il y a 7 cas de figure. Deuxième chose, deuxième paramètre. Pivoter, c'est bien, mais quelle amplitude? 25 points de base, 50 points de base. Et puis derrière, le 7 novembre et en décembre, à nouveau 50 points de base ou 25 points de base? Tout ça, le rythme, la raison du pivot, le rythme, vont décider de l'impact sur le marché action et le marché obligataire. Donc, chers amis, c'est parti. Nous passons en revue ces éléments. Bienvenue à cette nouvelle édition du Top. J'espère que cela vous plaît toujours. Vous avez vu, j'ai fait évoluer la qualité sonore et la qualité vidéo en m'équipant de nouveaux matériels. J'espère que cela vous sied. Alors, le programme s'affiche sous vos yeux. Alors que le pivot de la Réserve fédérale est attendu le mercredi 18 septembre, plusieurs paramètres sont à considérer afin de bien anticiper l'impact en termes de tendance sur le marché action et le marché obligataire. Car j'insiste, non, le pivot de la Fed n'est pas forcément haussier pour le marché action et n'est pas forcément haussier pour le marché obligataire. Nous le souhaitons tous, bien sûr, que ce soit le cas, mais vous allez voir que il y a plusieurs combinaisons. Les combinaisons, elles sont là, j'y viens dans un instant, j'ai mis ça un peu plus en forme dans un fichier, dans un PowerPoint. Donc première partie, alors donc cette semaine, n'oubliez pas, voilà la publication du très attendu rapport NFP du vendredi 6 septembre pour évaluer la probabilité d'une récession aux États-Unis. Et nous allons faire le point technique sur les indices boursiers et les obligations. Première partie, paramètres du pivot, 7 cas possibles sur les actions et les obligations. Rapport NFP du 6 septembre, l'économie américaine est-elle ou pas en récession économique? Nous allons enfin être fixés, car vous vous souvenez que début août, la mise à jour du rapport NFP a créé un stress, un choc du marché action qui finalement depuis s'est repris. D'ailleurs, nous allons parler analyse technique du S&P 500, du CAC 40, du SMI et aussi, bien sûr, le suivi technique de cette remontada des obligations que je défends depuis le début de l'année. Paramètres du pivot et cas possibles sur les actions et les obligations. Voilà, chers amis, voilà le tableau que je vous ai préparé. Donc, effectivement, vous pouvez constater que, nous admettons que le pivot intervient ce 18 septembre. Maintenant, reste à savoir s'il s'agira de 25 points de base de baisse de taux ou 50 points de base de baisse de taux, 0,25 ou 0,50. Et derrière, ce qu'on appelle le rythme à venir, le pass, comme disent les Anglais, le chemin qui suivra derrière, notamment lors des réunions du 7 novembre et de décembre, de fin décembre. Maintenant, ce pivot n'est pas mécaniquement une hausse des actions et des obligations. Comme vous pouvez le constater dans ce tableau, il y a, on les compte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cas de figure possibles. À mon humble avis, ces paramètres sont le taux de chômage et l'inflation. La combinaison des degrés d'évolution du taux de chômage et de l'inflation crée ce paramétrage, crée cette combinaison, crée cet impact différent. Donc, c'est parti, nous regardons ça ensemble. Alors, le tableau, bien sûr, là, vous pouvez, il est à vous, hein. Vous pouvez faire une pause et faire une capture d'écran si ça vous intéresse. Moi, là-bas, je l'ai construit tranquillement dans mon petit fichier Excel. Et j'ai trouvé que c'était plus à même, plus lisible, plus à même à être bien compris en le mettant comme ça dans un slide. Alors que le marché attend cette semaine toutes les statistiques les plus importantes au sujet du marché du travail des États-Unis, la haute finance se projette toujours sur un pivot de la Fed, donc le 18 septembre. La Doxa. Faites-vous partie de la Doxa, les amis. La Doxa envisage que le pivot de la Fed soit SOIDTE, je plaisante, un facteur fondamental haussier pour le marché actions et le marché obligataire. Ce consensus est largement dans l'erreur, car il ne prend pas en compte les paramètres du pivot. Les paramètres du pivot sont le taux d'inflation et le taux de chômage aux États-Unis, et il existe des cas de figure où le pivot peut avoir un impact baissier sur le marché actions. Typiquement, dans mes 7 configurations qui mènent toutes au pivot, sauf une, j'ai 2 cas de figure où vous pouvez lire très baissier et très baissier pour le marché actions. Ici, vous avez la colonne du marché actions. Ici, vous avez la colonne du marché obligataire. Et là, donc, la façon dont va évoluer le taux de chômage et l'inflation. Et donc, j'en traduis ça par... Donc, je traduis ça en raison du pivot. Et derrière, vous avez l'impact. Voilà, comme ça, j'espère répondre à toutes les questions qu'on pouvait me poser ici et là. J'ai toujours pensé qu'un bon tableau synthétique, comme ça, un tableau croisé, permettait d'apporter quelques réponses intéressantes. Alors, donc je vous propose de zoomer sur ce tableau qui dévoile donc les 7 cas figures possibles. Avant cela, gardez bien à l'esprit que ces paramètres vont décider de la raison du pivot de la Fed. Gardez bien à l'esprit, you must keep in mind, comme disent nos grands amis anglo-saxons, américains, Jerome Powell est un américain, et il a dit, you must keep in mind, that the fact que unemployment, le taux de chômage, le unemployment rate, est le plus important facteur, désormais, pour la Fed. Jerome Powell a dit, je ne tolérerai pas, nous, banquiers centraux de la Fed, ne tolérerons pas une hausse supplémentaire du taux de chômage, qui atteint, je vous le rappelle, 4,3% de la population active. Ce vendredi, il est mis à jour. Sera-t-il à 4,4 ou 4,2? Je vous le dis, en l'état, 4,4, les actions vont se faire, d'accord. 4,2, on respire, c'est bien. Pourquoi? Ben, on va en parler. C'est pourquoi j'ai créé ce tableau. Alors, première combinaison. Alors, je vous rappelle les paramètres ici, donc rapidement. Hein. Le pivot de la Fed est attendu le 18 septembre, vous l'avez compris. La question est de savoir combien de baisses de taux. À 65% de probabilité, c'est une baisse de taux. À 35% de probabilité, c'est deux baisses de taux. Actuellement, le taux de la Fed est ici, dans l'intervalle 5,25, 5,50. Les deux paramètres qui constituent donc mon tableau sont le taux de chômage aux États-Unis ici, qui a atteint 4,3% de la population active. Et effectivement, la pente n'est pas bonne, et cela rappelle ce que fut à l'époque le début de cette pontification, à l'époque la récession de la crise financière. Alors ici, c'est l'envolée du taux de chômage au moment du Covid, mais les économies avaient été mises en off par les gouvernements occidentaux. Le deuxième paramètre, c'est donc l'évolution du taux d'inflation aux États-Unis. Vous savez, la désinflation, elle est acquise, enfin elle est vraiment en cours, ce n'est plus qu'une question de temps, peut-être en fin d'année, début d'année prochaine, pour que les courbes d'inflation, qu'il s'agisse du PCE ou du CPI, ici vous avez le CPI, reviennent à 2%. Je vous rappelle que la prochaine mise à jour du CPI, c'est le 11 septembre prochain, et que la toute dernière mise à jour du PCE, c'était vendredi dernier, vous avez pu la suivre, et vous avez pu constater, comme moi, l'impact sur les obligations et sur les actions. Alors maintenant, revenons à nos moutons. Cas de figure numéro 1. Le taux de chômage serait en hausse continue au-dessus de 4,3% de la population active. C'est-à-dire, premier cas de figure, le taux de chômage continue de monter. Et donc, imaginez, avec votre, imagination, la courbe continue de monter, 4,3, puis 4,5, 4,6, 4,7. On se rapproche dangereusement de ce que fut l'évolution ici du taux de chômage au moment de la crise financière. Mais vous pouvez aussi regarder ça sur plus longue période, pour l'évolution du taux de chômage aux États-Unis. On va prendre sur 10 ans, on va prendre sur le max. Ça rappelle, on a un début d'évolution du taux de chômage qui rappelle ce que fut la crise financière de 2008, ce que fut la crise de la bulle internet .com de 2000-2001 et les précédentes pontifications. Et là, je vous ai mis 80 ans d'historique de cours. Donc effectivement, cette pontification à la hausse du taux de chômage interroge. Donc, premier cas de figure, le taux de chômage continue d'augmenter et reprend les schémas du passé. Elle, l'inflation, continue de baisser et baisse sous 2%. Alors me direz-vous, Vincent, l'inflation est sous 2%, c'est génial. Ça y est, enfin, les actions et les obligations vont monter. Eh bien non, les amis. Car si la courbe du chômage continue, sa hausse continue. Ça, c'est magique ce que je viens de dire. Au-dessus de 4,3%. Et que l'inflation va sous 2%, c'est que la raison de la baisse de l'inflation est un ralentissement économique. Je vous rappelle que le taux de chômage est le baromètre principal de la récession économique. Si les entreprises se mettent à licencier massivement, c'est qu'elles voient l'activité ralentir, c'est qu'elles envisagent moins de chiffre d'affaires, moins de bénéfices. Bref, si elles baissent leurs prix, c'est donc pour la, oui, vous l'avez dit, la mauvaise raison. Et donc, dans ce cas de figure, il y a effectivement un pivot qui sera d'ailleurs agressif, mais qui sera un pivot pour lutter contre la récession économique, impact baissier pour les actions, car qui dit récession économique dit moins de perspectives de bénéfices. Par contre, cela sera largement haussier pour les obligations. Aspect refuge plus baisse de taux, rappelez-vous la corrélation inversée entre le prix des obligations et le cycle des taux d'intérêt du marché. Deuxième combinaison, le taux de chômage serait stable. Il retombe à 4%, il bouge pas. L'inflation, elle, continue tranquillement de baisser vers 2%. Nous avons donc un pivot parfait, un pivot pour la bonne raison, qui est la désinflation et le soft landing, c'est-à-dire une croissance économique qui reste suffisante pour assurer les créations d'emplois. C'est haussier pour les actions, haussier pour les obligations. Troisième cas de figure, le taux de chômage reste stable autour des 4% et l'inflation baisse sous les 2%, carrément sous les 2%. C'est le scénario rêvé de la désinflation avec de la croissance économique et même d'un retour de l'inflation au monde d'avant. Les actions exploseront à la hausse et ce sera haussier pour les obligations. Maintenant, quatrième cas de figure, le chômage continue sa hausse, dépasse 4,3% de la population active et malheureusement, l'inflation reste au-dessus de 2%. C'est le pire scénario. Cela signifie que nous sommes en récession économique car la dégradation et la hausse du taux de chômage et du nombre de chômeurs, c'est le baromètre principal de la récession économique, mais que malgré ce ralentissement économique, les prix ne baissent pas et ne reviennent pas au monde d'avant, c'est la stagflation. Attendez-vous à un krach boursier des actions et à une hausse modérée des obligations du fait de l'aspect refuge et du déplacement des capitaux, le flight to quality, mais une hausse quand même somme toute modérée, car les taux d'intérêt resteront suffisamment élevés pour lutter contre cette inflation qui résiste. Cinquième cas de figure, le taux de chômage est stable autour de 4%. L'inflation, elle, par contre, se maintient au-dessus des 2% et ne revient pas à l'objectif de la Fed, mais quand même tend vers l'objectif de la Fed. Il y aura un pivot, donc, mais qui sera très limité, car il n'y a pas de raison de pivoter pour des régions d'emploi. Et il n'y a pas de raison de pivoter agressivement parce que l'inflation reste quand même au-dessus des 2%. L'impact serait neutre à haussier modéré pour les actions, par contre serait baissier pour les obligations, car pas d'aspect refuge, le taux de chômage est en bas, et la baisse des taux serait trop limitée pour créer davantage de hausse des obligations. Sixième cas de figure, le taux de chômage baisse sous les 4%, on repart dans une dynamique de création d'emplois. L'inflation, elle, se maintient au-dessus des 2%. Là, dans ce cas de figure, il n'y a aucune raison que la Fed pivote. La Fed ne pivoterait pas, ou ce serait un pivot très limité. Pourquoi ? Parce que l'inflation, toujours au-dessus de 2%, elle n'est pas à l'objectif. Et le taux de chômage baissant, elle n'a pas de raison de pivoter pour lutter contre la récession économique. Il y aurait une hausse modérée des actions, car elles sont déjà hautes, et parce que la baisse du taux de chômage, c'est quand même la traduction de perspectives de chiffre d'affaires et de bénéfices pour les entreprises. Par contre, ce serait clairement baissier pour les obligations, pas d'aspect refuge, pas de baisse de taux. Et enfin, septième cas de figure, le taux de chômage baisse, l'inflation va sous 2%. C'est un scénario superbe, désinflation et même no landing, donc accélération de la croissance économique pour permettre une baisse du taux de chômage. C'est très haussier pour les actions et haussier modéré pour les obligations. Voilà, chers amis, je vous ai rassemblé ici ce que j'estime être les 7 cas de figure possibles en fonction du paramétrage qui va mener au pivot. 7 combinaisons possibles qui nous donnent un pivot, mais de différentes natures, avec à chaque fois donc un impact différent sur le marché action et sur le marché obligataire. Alors, où en sont sur le plan technique le marché action, le marché obligataire? Ça, c'est la dernière partie de la vidéo. Maintenant, cette semaine, vous avez donc quelque chose de très important. Cette semaine, vous avez la mise à jour le vendredi 6 septembre en facteur fondamental dominant du fameux rapport NFP. Nous venons de voir dans le précédent slide, mais je remonte ça ici sous la forme de mon tableau Excel, que les statistiques de l'emploi et en particulier le taux de chômage sont un des deux paramètres qui permet de créer donc 7 cas de figure possibles pour le pivot de la Fed. Et donc cette première semaine de septembre, vous avez la mise à jour des statistiques d'emploi qui sont les plus importantes. Je vous les ai rassemblées dans le tableau qui se trouve à droite. Et cela, comme je viens de vous l'expliquer, va permettre de savoir dans quelle combinaison nous allons tomber. En clair, pour parler simplement, vous l'avez compris, pour avoir un pivot pour la bonne raison et pour avoir un pivot qui soit à la fois haussier pour les actions, qui permettent en tout cas aux actions de se maintenir, en tout cas au S&P 500, et au marché obligataire de poursuivre sa reprise progressive, nous avons besoin d'un taux de chômage qui ne s'enflamme pas. Nous avons besoin d'un marché du travail qui reste assez consistant, qui ne se dégrade pas trop, car il y a de nombreux indices qui nous montrent qu'il se dégrade, mais que cette dégradation reste sous contrôle et en même temps que la désinflation se poursuive. Je dirais que dans le cas de figure où nous aurions cette semaine de très mauvais chiffres, de très mauvaises statistiques du marché du travail américain, eh bien, ce sont les obligations qui vont en profiter. Bon, ça, au moins, c'est pourquoi moi j'insiste. Et j'insiste dessus depuis plusieurs semaines. J'espère que vous avez pu, depuis le printemps dernier, et lorsque nous nous sommes vus à la conférence Swissquote, eh bien rééquilibrer une partie de votre portefeuille en défaveur des actions et en faveur des obligations. Il ne s'agit pas d'arrêter d'acheter des actions, il s'agit simplement d'allouer une partie de son portefeuille à ce marché obligataire qui a un énorme potentiel technique de hausse. Et ça, je reparle plus loin dans la vidéo. Vous pouvez aller directement à la partie obligation si ça vous intéresse. Donc cette semaine, vous avez tous ces chiffres qui vont être mis à jour. Et bien sûr, le principal étant donc le taux de chômage aux États-Unis. Alors, c'est le chiffre le plus important, ce taux de chômage aux États-Unis. Le rapport NFP aux États-Unis. Hein. Le rapport NFP va donc être mis à jour le 6 septembre. À l'intérieur duquel vous avez le taux de chômage, les créations nettes d'emplois, la croissance des salaires faisant le lien entre le marché du travail et l'inflation, et la haute finance espère un taux de chômage qui ne dépassera pas 4,3% de la population active et une croissance des salaires qui va continuer donc de se replier. Donc ça, c'est la première chose. Cette semaine, pour éviter un pivot de la Fed qui soit pour la mauvaise raison et qui crée un choc sur le marché action, le taux de chômage actuellement à 4,3% de la population active, il ne serait pas tolérable qu'il monte davantage. 4,4% ne serait pas toléré par le marché. Le marché veut au pire du 4,3% et espère du 4,2%. Surtout si cette hausse du chômage était liée à un facteur saisonnier estival. Vous avez cette semaine, bien sûr, comme d'habitude, la mise à jour des nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage et des inscriptions continues, alors qu'il reste à un niveau élevé. Alors, il y a eu un peu d'air sur les inscriptions hebdomadaires classiques, on verra ce que cela donne cette semaine. Vous avez l'enquête ADP qui suit une mauvaise trajectoire, c'est comme le rapport NFP. L'enquête ADP, ça couvre 20% de la population active des États-Unis. On considère que le marché du travail continue de créer des emplois et pour maintenir un taux de chômage bas dès lors qu'on a davantage de 100 000 créations nettes d'emplois. Bon, la dynamique n'était pas bonne, on était à 122 000 sur le dernier et nous étions, où est mon rapport NFP? Je ne l'ai pas mis, les non-farm payroll, bah écoutez, je vais aller vous mettre ça tout de suite. Et nous étions à moins de 100 000 sur, voilà, le rapport NFP était tombé à 114 000. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les créations nettes d'emplois, les non-farm payrolls. Ça a stressé le marché parce que sous 100 000, c'est une économie américaine qui n'est plus capable d'assurer un maintien du taux de chômage qui est bas. Donc tous ces chiffres, vraiment, le temps fort, c'est le 6 septembre, c'est à la fin de la semaine. Vous avez donc l'enquête ADP qui est publiée en milieu de semaine. Un autre facteur aussi important, ce sont les Challenger Job Cuts. Car, si vous voulez, une économie qui est vraiment en récession. Des entreprises qui craignent la récession, le ralentissement économique, qui le constatent. Lorsqu'elles n'ont plus le choix, elles licencient. Mais elles licencient vraiment en dernier ressort, car c'est compliqué de recruter des bons salariés. Elles licencient vraiment lorsqu'elles ont un doute sur leur carnet de commandes, sur les perspectives de chiffre d'affaires, sur les marges. Ça, c'est l'indicateur de récession. Et c'est vrai que là, nous avons eu une hausse du taux de chômage, mais il n'y a pas eu de vague de licenciement. Donc, c'est une hausse du taux de chômage qu'il y a des phénomènes techniques de proportion, de lien à la population active, et aussi à des licenciements dits techniques temporaires. Et des emplois qui sont pour le moment amenés à être créés. Mais par contre, le jour où si jamais vous avez une envolée des job cuts, un job cut, c'est un contrat permanent coupé définitivement. Pour des raisons globales macro. Si ça s'envole, on verra la prochaine mise à jour, là, nous risquons d'avoir un pivot pour la mauvaise raison. Mais tant que cela reste bas, nous avons pour le moment en perspective un pivot pour une raison qui peut être à la fois favorable au marché action et au marché obligataire. N'oubliez pas le tableau que je vous ai proposé, vous avez les combinaisons possibles. Et moi, on va en permanence, avec la mise à jour des datas d'inflation et d'emploi, permettre de savoir où mettre le curseur dans ces combinaisons. Il y a peut-être encore d'autres combinaisons, je vous en ai proposé 7. Mais n'hésitez pas, si vous avez d'autres idées de combinaisons, à proposer la vôtre. La croissance des salaires, ça c'est très bien, est en baisse et elle est presque revenue au monde d'avant. Et ça, c'est très bon pour la désinflation. Ça par contre, c'est le taux de chômage dit U6, donc le taux de chômage qui prend en compte le travail précaire, partiel, ou encore ceux qui ont abandonné. La dernière mise à jour à 7,8 était très moche, la tendance est mauvaise. Bon, ça aussi, il est vraiment très important que ce vendredi 6 septembre, ce taux de chômage U6 qui prend en compte ces phénomènes saisonniers retombe. Ça fera partie des chiffres surveillés. Et vous avez aussi en milieu de semaine les job openings qui suivent une dynamique de baisse. Et effectivement, alors nous ne sommes pas revenus au niveau ici. Ça commencera à devenir compliqué si on repassait dans cette zone ici de la crise sanitaire. En attendant, ça va. Mais on arrive en zone où on commence à surveiller ce chiffre. Donc voilà, tout ça est important. Tout ça est important à surveiller. Et puis, vous avez donc le Real-Time Sam Rule Recession Indicators, indicateur qui a fait parler de lui, qui est en fait la moyenne mobile à 3 mois du taux de chômage U3, qui a atteint 0,54. Et bon, au-dessus de 0,50, c'est une pré-alerte de récession. On verra là, du coup, ce que ça donne. C'est pourquoi, au final, après tout le blabla que je viens de vous faire, retenez une seule chose. Le chiffre majeur de la semaine, c'est le taux de chômage aux États-Unis. Et pour espérer un pivot pour la bonne raison, il faut que ce taux de chômage ne dépasse pas ce qu'il a atteint, à savoir 4,3% de la population active. Maintenant, chers amis, nous allons faire le tour d'horizon technique. Les indices boursiers américains, CAC 40, SMI et des obligations américaines et européennes. C'est parti.